une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre documentaire du week-end, nous étions en novembre 2015. La France vient de vivre les attaques du Bataclan, de la Belle Équipe, du Petit Cambodge et du Stade de France. Les souvenirs sont encore très frais dans les mémoires et les Français sont KO. À 4h20 du matin, le mercredi 18 novembre 2015, la police lance l'assaut contre le numéro 48 de la rue de la République à Saint-Denis, où se sont réfugiés deux terroristes et une complice ayant participé aux attaques du 13 novembre. On dirait que la guerre est déclarée. C'est ce que se dit Antoine Tricot, producteur de ce documentaire, brutalement réveillé, qui habite tout à côté. Avec Christine Robert à la réalisation, il nous raconte le traumatisme discret qu'il porte cependant encore en lui, comme bon nombre de Dionysiens.
À l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas accès à ma chambre. Toujours. Même pour me régulariser, même, ça a été des problèmes. J'étais parmi le deuxième, le dernier groupe à être régularisé. Parce que tous mes documents, tout est resté dedans. Et je vais faire comment pour prouver que non, que j'habitais ici.
18 novembre 2015. L'assaut de Saint-Denis. Un documentaire d'Antoine Tricot et de Christine Robert. Épisode 2. Un immeuble toujours à vif.
Alors nous sommes devant la façade qui est taguée, non à la spoliation, il y a marqué dessus, il y a marqué SOS, il y a un arbre même qui pousse à une fenêtre du premier étage, au-dessus d'une devanture d'ancienne boutique, il y a téléboutique, c'était une boutique de téléphone, une boutique de mariage, tout est fermé par des grilles.
Tous les magasins qui étaient là sont fermés depuis la nuit du 18 jusqu'à nos jours. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a même un arbre qui plante au niveau du premier qui monte jusqu'au troisième. Quand tu vois le bâtiment, ça fait triste.
C'est l'histoire d'un immeuble, un petit immeuble de 4 étages, en plein centre de Saint-Denis, juste en face de la poste, au croisement de la rue de la République et de la rue du Corbillon. Le 18 novembre 2015, la police y a lancé un assaut. Deux terroristes s'y terraient. Ils avaient participé 5 jours plus tôt aux attentats de Paris. Tous les deux sont morts sous le feu des agents du raid. La cousine de l'un d'eux aussi. En une journée, ce petit immeuble vétuste, où vivaient plus de 80 personnes, s'est transformé en scène de guerre. Stéphane Peu, député communiste de Saint-Denis et en 2015 adjoint à la mairie chargé du logement et de l'urbanisme, a pu entrer dans ces bâtiments du 48 rue de la République, après le départ des policiers.
Après l'assaut, les appartements où étaient logés les terroristes étaient totalement dévastés. Celui qui a fait sauter sa ceinture explosive, il a créé un cratère d'environ 3 mètres de diamètre sur deux niveaux de l'immeuble, donc c'est quand même très, très impressionnant. La façade était criblée de balles, enfin, c'est une scène de guerre affreuse. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu abject, mais enfin, le mur de l'immeuble en face, il était moucheté de chair humaine. C'est dire la violence de ces ceintures explosives et de cette intervention.
Cet immeuble est juste en bas de chez moi. En passant devant cette façade abandonnée et ses fenêtres condamnées, je me demande toujours pourquoi les traces de cet événement n'ont pas encore disparu. Des milliers de personnes passent ici chaque jour, le long de ces murs, dans cette rue piétonne qui est l'une des plus commerçantes de Seine-Saint-Denis. Je me demande pourquoi ces bâtiments sont encore vides et ce qu'ils vont devenir. Je me demande aussi ce que sont devenus ceux qui y habitaient et qui n'ont jamais pu revenir.
C'est un truc qui m'a toujours marqué et qui me marquera toujours. C'était vraiment la nuit du cauchemar. Franchement, jusqu'à présent, voilà quoi. J'essaie d'oublier, mais de surmonter les choses, mais ça y est toujours.
Traoré Lassina Tagara habitait dans le bâtiment C, juste au-dessus de l'appartement où se sont réfugiés les terroristes. Nous sommes dans la rue du Corbillon, face à l'ancienne porte d'entrée de son immeuble, murée.
Au niveau du temps, j'étais complètement désorienté. Je ne savais même plus quelle heure il faisait et qu'on sort. Parce que l'assaut a eu lieu vers les 4h du matin. Depuis 4h du matin jusqu'à 22, 23h, minuit, on était au gymnase. Tu es là, tu ne sais pas que la nuit passe. Après, c'est le matin, tu es là, l'insomnie. Tout ça, ça faisait venir. Et puis la fatigue, tu ne peux pas dormir, tu ne manges pas. C'est là que j'ai vu ces vieux, ces vieilles en train de verser des larmes. Et moi, je ne pouvais pas résister aussi. Sans parler des enfants aussi qui étaient là, qui ne cessaient de pleurer, ainsi que leur maman. Franchement, ça faisait pitié. Quand tu vois ça à la télé, tu ne sais pas qu'un jour, tu allais te trouver dans la même situation. C'est vu, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu n'as rien du tout, tu n'as rien du tout, tu deviens... Voilà quoi, tu ne sais pas ce que tu vas devenir.
La préfecture est venue et de manière extrêmement froide leur a dit que maintenant tout le monde allait partir dans des hébergements. On ne savait pas pour combien de temps, on ne savait pas où. Tout le monde allait être dispersé aux quatre coins de l'Île-de-France et que c'était comme ça et qu'il fallait y aller.
Marie Huyban habite à Saint-Denis. Elle est militante de l'association Droit au Logement, le DAL.
C'est à ce moment-là qu'ils se sont organisés, qu'ils se sont constitués en association et qu'ils ont demandé à discuter de leur devenir de manière collective. Leur première demande, c'était que tout le monde soit relogé. Leur deuxième demande, c'est pour ceux qui étaient en situation irrégulière, que tout le monde soit régularisé. Et leur troisième demande, c'était qu'ils soient reconnus victimes du terrorisme.
Au gymnase, on a fait à peu près 10 jours. Puis ils ont orienté les célibataires à l'hôtel Campanile, les familles dans les résidences sociales et dans des logements sociaux. Il n'y avait rien à manger pour nous, il n'y avait rien pour nous. Chacun se débrouillait. Franchement, on a vu la galère, on a vu la misère. On pouvait passer toute une journée, 2 jours, sans manger même le simple café. Et puis pendant ce temps, ils disent non, qu'ils nous ont logés à l'hôtel, ils sont bien logés à l'hôtel. On est bien logés à l'hôtel, ça veut dire qu'on est bien logés. Mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Vous avez oublié qu'on a laissé tout au 48. Mais voilà, moi je ne parle pas des autres, mais moi mon frigo était plein. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec des matelas propres, lit, tout ça, baignoire. Et puis je n'ai même pas un rond pour manger. Vous voyez, et ça faisait que les gens avaient presque pété les plombs.
Il n'y a rien eu qui s'est fait spontanément. C'est-à-dire que dans les mois qu'on suivit, sur la cinquantaine de ménages qu'il y avait, il y a moins d'une dizaine de familles qui ont été relogées dans les premiers mois. Et après, bah, c'est là que la situation s'est complètement ankylosée. C'est-à-dire que, voilà, alors qu'il y avait eu des garanties, la ministre du logement qui avait garanti que tout le monde serait relogé, la mairie avait dit aussi qu'elle relogerait des habitants, etc., etc. Mais là, d'un coup, au bout de 3 mois à peu près, il n'y a plus rien eu du tout. La situation a absolument plus évolué, et ça pendant très longtemps.
La parole est à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Madame Sylvia Pinel.
L'État mobilise l'ensemble des partenaires du logement social, mobilisera son propre contingent pour reloger au plus vite les familles concernées.
Vous le voyez, 19 décembre 2015, rassemblement des habitants devant le ministère des Affaires étrangères.
Pour trouver un logement digne et adapté.
18 janvier 2016.
De ces familles.
Manifestation et conférence de presse à Saint-Denis devant le 48 rue de la République.
Bonsoir à tous. Je rappelle, hein, les revendications du collectif des habitants, c'est toujours les mêmes. Le relogement.
On a fait des manifestations devant tous les ministères qui étaient concernés.
La régularisation à titre humanitaire de nos voisins sans papiers.
Il y a eu des manifestations au ministère du Logement, il y a eu des manifestations au ministère de la Justice.
Jeudi prochain, donc, on va être reçu par la nouvelle secrétaire d'État.
18 février 2016. Les habitants et droits au logement se déplacent au secrétariat d'État de l'aide aux victimes.
Et qu'est-ce qu'on veut ? Le statut ? Et qu'est-ce qu'on veut ? Le statut ?
18 mars 2016. Rassemblement des habitants et de leur soutien devant le ministère de la Justice.
Et donc c'est à chaque fois suite à ces mobilisations qu'il y a eu des avancées.
4 mai 2016, la basilique de Saint-Denis est occupée.
Pour se faire entendre, ils ont décidé de passer à l'action.
Je me rappelle ce moment. L'évacuation par les forces de l'ordre en fin de journée a été particulièrement brutale.
Ils sont là pour crier « Justice !»
Mais cela a permis d'obtenir de la préfecture des titres de séjour de 1 an pour 21 des 24 personnes sans papier. Et plusieurs familles se sont vues proposer des logements sociaux. Mais les célibataires, eux, sont restés à l'hôtel.
Vous étiez à l'hôtel Campanile, donc qui est à côté de l'arrêt de métro Basilique, en plein centre de Saint-Denis. Vous y êtes resté combien de temps ?
Jusqu'en 2017.
Donc vous y êtes resté 2 ans ?
Oui, 2 ans à l'hôtel Campanile. Et puis de l'hôtel Campanile, un jour, il y a la sous-préfète de Saint-Denis. Je ne sais pas comment c'est passé avec la préfecture. Ils nous ont orientés à l'hôtel Ryan, qui est situé au niveau de l'île de Saint-Denis. Là-bas, c'était complètement la misère totale. Je n'appelle pas ça un hôtel. On était entassés dans des chambres d'hôtes, étaient à 3 personnes sur des lits superposés. Il y avait des rats, des souris, des cafards, et encore l'eau, il n'y avait pas l'eau chaude. Il fallait lutter, il fallait se battre. Et sinon, voilà, on était perdus. On était perdus, on était oubliés.
Vous avez la sensation d'avoir été oublié par l'État ?
Oui, il fut un temps, on ne parlait même plus de nous, même quand on demandait des rencontres, voilà, on n'arrivait pas à avoir des rendez-vous. Mais c'est normal. Moi, je me disais à l'époque, oui, c'était normal, c'est l'administration, il faut que ça prenne le temps, mais il ne faudra pas aussi nous oublier.
L'un des pires moments, je crois, c'était 2 ans après cet assaut. On était toujours à une 10-15aine de familles qui avaient été relogées sur la 50aine, mais en plus, il y avait 5 personnes qui avaient été remises à la rue, qui dormaient dans une voiture, qui dormaient dehors, qui dormaient dans les escaliers. En plus, il y avait beaucoup parmi les habitants qui avaient des difficultés pour renouveler leur titre de séjour.
Je dors dans ma voiture parce que moi, j'étais dehors.
Donc, les habitants, avec le soutien du DAL, ont installé un campement devant leur immeuble la veille de la date anniversaire. Et les 5 personnes qui étaient à la rue ont dormi là.
Sans papier, sans rien du tout.
Pour acheter 2 ans après, 4 occupants de l'immeuble sont toujours sans papier. 11 n'ont pas été relogés, contrairement aux promesses du gouvernement à l'époque. Dans un mois, cette jeune femme devra quitter la résidence sociale où elle est hébergée depuis.
Je suis sans emploi, sans papier, sans ressources et bientôt sans foyer. Je quitte ma chambre avant le 14 décembre. Je suis sans rien. Ils m'ont aidé, ils m'ont pas aidé.
Pour les élus de Saint-Denis, l'État n'a pas été à la hauteur.
Des mal logés sous les fenêtres de l'Élysée. Ils sont une centaine à occuper depuis hier soir un gymnase situé juste à côté de la présidence, soutenu par le DAL, l'association Droit au Logement. Et hier soir,
3-4 jours après, les 5 qui étaient à la rue et les autres familles qui soutenaient ont occupé avec d'autres familles du DAL qui étaient sans logis, un gymnase juste à côté de l'Élysée, un gymnase de Roquépine. Et donc là, suite à ça, les 5 qui étaient à la rue ont été hébergés et il y a des choses et des moyens qui ont été mis pour que toutes les familles soient relogées.
Bon, mon vrai logement, c'est à partir de 2019, plus précisément le 5 mars que j'ai eu mon logement, j'ai pu signer et puis j'ai eu le logement à Stein. Et voilà, depuis là jusqu'à aujourd'hui, c'est chez moi. À partir du moment que j'ai été régularisé, je deviens presque un citoyen français. Moi aussi, c'était pour ça, aussi pour dire que vraiment, je suis intégré, quoi. Voilà, et j'ai gagné ma petite vie.
Aujourd'hui, quasiment tous les anciens habitants du 48 rue de la République ont été régularisés et ont obtenu des logements sociaux. Certains ont pu suivre des formations. Seuls quelques-uns, faute d'emploi stable, habitent encore dans un foyer de travailleurs. Mais au-delà des questions matérielles, demeure la question du traumatisme psychologique.
Vous avez beaucoup revécu dans votre tête la nuit du 18 novembre ?
Beaucoup, et ça c'est presque tout le temps. Et puis même deux fois quand je travaille à un certain moment donné, brusquement, ça me vient dans la tête. Je reste calme pendant à peu près 1 minute, 2 fois, 30 secondes comme ça, et puis ça s'en va. Vous voyez, c'est marqué sur le disque dur. Ouais, quand je pense que du côté du 48, dans mon logement, j'ai tout dedans. Je suis en train de recommencer une autre vie, sans me souvenir d'Afrique, même d'enfance et consort que j'ai tout laissé. Ma quête de musique, mes documents importants, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme si on m'avait coupé, on m'avait fendu en deux, une partie de l'autre côté, une partie de l'autre côté. C'est difficile, franchement, d'avoir la tête bien carrée dans ça.
C'est-à-dire que non, il n'y a pas eu parmi les habitants de morts au moment de l'assaut. Il y a quand même eu des blessés. Il y a des gens qui, aujourd'hui encore, n'ont pas un usage normal de leurs bras, par exemple, parce qu'ils ont été blessés à ce moment-là. Sans parler de tous les troubles psychologiques que ça a pu entraîner, parce qu'il y a eu des tirs pendant des heures. Donc évidemment, il y a des enfants qui ont vécu ça alors qu'ils avaient 1 an. Des années après, ça remonte, ça ressort, etc. Il y a énormément de gens qui ont été complètement traumatisés par ça. Enfin, il y a eu beaucoup des habitants qui ont été hospitalisés dans les années qui ont suivi pour une aide psychologique, parce qu'ils n'y arrivaient plus, parce que c'était trop dur. Et suite à ça, il y a vraiment eu ce besoin d'être reconnu comme victimes du terrorisme. C'est ce besoin d'avoir un statut, d'avoir quelque chose, surtout que les habitants ne pouvaient pas avoir de psychologue. Il n'y avait pas de cellule psychologique qui avait été mise en place, il n'y avait rien. Les parents qui voulaient prendre des rendez-vous pour leurs enfants chez les psychologues, on les renvoyait à des rendez-vous dans 6 mois, alors que c'est des enfants qui venaient de vivre un traumatisme, etc.
Marie Huiban, est-ce que les habitants du 48 rue de la République ont obtenu ce statut de victime du terrorisme ?
Non, ils ont obtenu le statut de victime d'une opération policière en responsabilité sans faute de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont pu bénéficier aussi d'une indemnité au titre du préjudice psychologique, ce qui au départ n'était pas prévu du tout. Hein.
Stéphane Peu, comment expliquer que l'État n'a pas reconnu aux habitants du 48 rue de la République qui ont vécu ces scènes de guerre le statut de victime du terrorisme ?
Pour moi, c'est incompréhensible. J'ai bien écouté tous les arguments qui m'ont été opposés puisque j'ai cessé de le demander. Je l'ai encore demandé récemment. Je ne cesserai de le faire et je ne comprends pas. Faut considérer les personnes et que si elles avaient été assimilées à des victimes du terrorisme, d'abord, ça aurait ouvert quand même des droits à réparation. Puis ça aurait été aussi une reconnaissance au-delà du droit à la réparation. C'est évident que si ça avait été un autre endroit de France et une population moins modeste, je pense que... Vous savez, par exemple, on n'a jamais de ministre qui soit venu. On n'est pas loin de Paris. On bat tous les records de visites ministérielles. On a 2-3 ministres qui viennent toutes les semaines. Pour rien, mais c'est pas loin de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, donc on y va et on coche la case visite de terrain. Mais quand il y a eu ces gens qui sont restés 2 semaines dans un gymnase, pas un ministre n'a vu. Ça en dit long.
Si les habitants du 48 rue de la République avaient été reconnus victimes du terrorisme, la mairie estime que l'État aurait pu dégager des moyens exceptionnels pour les reloger et les régulariser plus rapidement, leur épargnant ces longues procédures et la concurrence avec d'autres mal logés, dont beaucoup attendent des logements sociaux pendant des années. Mais une autre question se cache également derrière celle du relogement des habitants. Car si ceux-ci n'ont pas obtenu le statut de victime du terrorisme, les propriétaires des appartements condamnés du 48 rue de la République non plus. Ils n'ont donc pas été remboursés par leurs assurances pour la perte de leurs biens. Les contrats prévoyant rarement le risque de destruction du logement par une opération de police. Et 5 ans plus tard, leur situation demeure obscure, tout comme l'avenir de ces bâtiments.
La situation n'a jamais été saine et transparente.
L'avocat Florian Tozoni est en charge depuis 2017 de la défense du syndicat des copropriétaires du 48 rue de la République et de quelques propriétaires à titre individuel.
Il y a eu l'imbrication d'une responsabilité d'État dans l'intervention de la police, ça c'est un fait qui est acquis, et il y a eu la ville de Saint-Denis qui s'est instillée dans cette difficulté qui pour eux va être une difficulté à la fois de péril et une difficulté urbanistique, et qui a voulu s'instiller dans cette problématique. Et c'est la combinaison des deux aspects qui a rendu la chose inextricable. Concrètement, ça donne un arrêté de péril, ça c'est la ville de Saint-Denis, un arrêté d'insalubrité, ça c'est l'État. Et c'est ce jeu de va-et-vient permanent entre les différentes personnes publiques qui a rendu la chose inextricable et qui explique qu'en fait qu'on peut pas entrer. C'est-à-dire que, bien sûr, paraît intégré, c'est certain, mais au surplus, même pas capable d'aller et venir pour prendre des meubles, des souvenirs, ce que vous voulez, quoi. C'était complètement clos.
La première position des services de l'État, contre laquelle je me suis élevé, qui a été fait l'objet de discussions assez dures, a été de préconiser le retour dans l'immeuble au moins des 2 escaliers dans lesquels il n'y avait pas eu de terroristes. Sachant qu'il y avait des façades percluses de balles, que les gens avaient vécu quand même quelque chose qui... Bon. Il a été convenu qu'on réintégrerait personne dans l'immeuble pour des raisons d'insalubrité, d'insécurité, de traumatisme. Il y avait une accumulation d'événements autour de cet immeuble qui justifiait qu'il ne soit pas réoccupé et même qu'il soit rasé parce que sa structure était extrêmement fragilisée, que l'assaut n'avait rien arrangé. C'était déjà un immeuble de facture très modeste et qui faisait l'objet d'un déficit d'entretien depuis de longues années. Donc il était fragilisé par beaucoup d'endroits. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a des lieux comme ça qu'il vaut mieux effacer de la mémoire d'une ville.
Pour moi, cette maison a une identité personnelle à moi.
Bibata Ouedraogo est propriétaire depuis la fin des années 70 d'un petit appartement au 48 rue de la République, dans lequel vivait jusqu'au 18 novembre 2015 son frère, Traoré Lassina Tagara.
C'est là où, en venant d'Afrique, je me suis retrouvée là, à ne même pas savoir écrire mon nom et vivre avec mon mari qui m'aimait et que je apprenais à vivre dans un autre pays où, qui n'était pas le tien. Et pour moi, tout est beau, tout est beau, tout est neuf, tout est beau. Et j'étais très heureux là-bas. J'ai fait mes enfants, j'étais très, très heureux. Et même, on a beau dire que la maison était petite, moi, c'est mon nid d'amour. C'était quelque chose gravé dans ma tête pour toujours. Maintenant que l'attentat arrive, on nous raconte tout ce qu'ils veulent dessus, alors qu'il y avait des gens qui vivaient dedans, et très bien, qui vivaient très bien leur vie là-dedans. Je comprends pas. J'avais rénové tout l'appartement, j'ai même fait le couloir, j'ai voulu me caler et tout ça. Oui, c'était propre. En tout cas, c'était un bâtiment qui était plein de vie, plein de joie. J'ai vécu heureux avec leur père. Et cette maison, c'est de bons souvenirs pour moi. C'est pour cette raison même d'ailleurs que quand leur père est décédé, on a souhaité tous la garder parce que c'est quelque part notre vie.
Est-ce que vous savez ce qu'il va advenir de votre appartement aujourd'hui?
C'est cette raison qui fait que je vous ai ouvert ma porte parce que en tant que propriétaire, on s'est regroupé, on avait des réunions à gauche à droite qui disaient ci, qui disaient ça, mais bon, vraiment qui ne nous précisaient pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette lot d'appartements. Et façon dont ils ont scellé les trucs dès le début jusqu'à aujourd'hui, moi je ne crois pas qu'aucune personne ne pourrait habiter dans ce lot-là encore, je ne crois pas. Même s'ils me disent demain qu'ils vont faire des ravalements, moi personnellement je n'y crois pas. Je ne crois pas parce qu'ils ont fermé ça depuis l'attentat jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont des idées derrière la tête, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous disent que nos bâtiments étaient délabrés, que nos bâtiments étaient salubres, que nos bâtiments étaient infestés de rats, pour tout ça, pour ne rien nous payer en fin de compte quoi. C'est dégueulasse.
La copropriété du 48 rue de la République avait été repérée en 2007 par la mairie. Elle était perçue comme fragile. Les parties communes étaient vétustes et plusieurs appartements n'étaient plus entretenus, attirant la criminalité. Certains étaient squattés, comme celui que le fameux Jawad Ben Daoud avait loué illégalement aux terroristes. Pourtant, l'immeuble n'était pas non plus aux mains des marchands de sommeil. Sur 30 logements, 11 étaient jugés insalubres. Mais les autres propriétaires entretenaient leurs appartements. Ils les louaient dans les règles de l'art ou bien les habitaient eux-mêmes. Des travaux d'ampleur avaient même été votés en mai 2014 sous l'égide de la mairie. Il y en avait pour 520 000 euros. Des caméras de surveillance devaient même être installées, mais 18 mois plus tard, au moment de l'assaut en novembre 2015, les travaux n'avaient toujours pas commencé. Cette diversité des situations des propriétaires est typique de l'habitat insalubre. Il faut racheter les lots un par un, et comme le montre l'exemple du 48 rue de la République, il est difficile de punir les propriétaires crapuleux sans désavantager ceux qui entretiennent leurs biens. Ces derniers sont souvent coincés entre d'un côté le rachat de leur propriété par l'État, à un prix en dessous de celui du marché, et de l'autre, la menace d'expropriation pour un prix encore plus bas. Les procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits sont longues et coûteuses, sans compter que les informations sont rarement accessibles.
Est-ce que quelqu'un vous a fait une proposition de rachat de cet appartement ?
Personnellement, jamais. Jamais entendu une proposition. Rien, rien. Nada, nada, nada.
Vous ne savez pas aujourd'hui où en est le dossier ?
Non, point zéro. Comme le jour de l'attentat, rien du tout, rien, rien. Je n'ai aucune information concernant ma maison, qu'est-ce qui deviendra demain ou qu'est-ce qui deviendra aujourd'hui, je n'ai aucune information, rien, rien, rien.
Il y a par contre un grand nombre de personnes qui, à ce jour, ont été rachetées, non pas directement par l'État, mais par un organisme qu'on appelle la Soreca. Quand il y a un motif, je dirais, d'utilité publique, ils sont là pour racheter pour le compte des collectivités. Et c'est effectivement, là il y a eu beaucoup de rachats à des prix, si je puis dire, défiant toute concurrence.
C'est-à-dire ?
Ah bah c'est très simple. Le prix au mètre carré du mètre carré d'habitation dans la résidence, c'est 1700 euros pour la Soreca. C'est tout simple. Vous avez exactement la même résidence 5 ans avant, juste avant les attentats, parce que malheureusement il y a des gens qui ont acheté juste avant les attentats. C'était deux fois plus. C'était entre 3000 et 3500 euros le mètre carré. Mais on est juste à côté de la basilique, on le sait. Donc, 3500 euros, 1700 euros. Ils ont fait une bonne affaire.
Maître Tozoni, que peuvent souhaiter les propriétaires du 48 rue de la République aujourd'hui ?
Avoir un dédommagement pour les 5 dernières années, parce que ils n'ont pas pu habiter, ils ont dû se loger différemment. Avoir un dédommagement parce que aujourd'hui il paraît difficile de re-rentrer dans les biens, ça a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années de manière volontaire et précipitée par les collectivités publiques. Donc ils peuvent espérer vendre leur patrimoine à un prix qui correspond au prix du marché. Voilà ce qu'ils peuvent espérer et ce qu'ils doivent obtenir in fine. Toute autre solution, de toutes les façons, c'est une spoliation. Il faut être bien clair sur ça. C'est des gens qui n'ont jamais abrité de terroristes, qui n'ont jamais été en accord avec les terroristes, qui ont été victimes d'un nombre de préjugés incroyables, et parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion, etc. On les a laissés choir dans leur situation, on a raconté les pires insanités sur eux, et ça, on va se battre, indéfiniment. En tout cas, tant que je serai là, on se battra, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui pour cet appartement ?
Par un minimum de respect.
Ramata Kafando. C'est la fille de Bibata Ouedraogo.
La génération précédente, donc je prends la génération de mon père, qui a travaillé toute sa vie, qui a eu des médailles d'honneur, qui a toujours payé ses impôts, qui a quitté un pays pour venir s'enraciner dans un autre, qu'il a aimé, qu'il a respecté. Il s'est adapté, il a été citoyen, il a acheté un bien parce qu'il aimait ce pays et qu'il se voyait y évoluer. Et on est un petit peu lésés, on va se dire la vérité.
Mama, oh, 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 oh.
C'est un chant que j'ai composé dans la langue maternelle en djoula et puis... un peu une partie en français.
Mama, oh.
Et moi, j'aimerais bien rajouter, c'est cet bâtiment bloqué pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il compte nous dire ? Il compte nous dédommager pendant 5 ans qu'il est bloqué ? Oui, il compte aussi nous dire, oui, il était infesté de rats, on ne peut rien vous donner. Qu'il nous dise quelque chose par rapport à tout ça. Ça devient lourd. Ça devient lourd. On aimerait bien un jour au moins savoir la fin de ça, parce que toute chose a une fin. Même la vie a une fin. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils comptent faire. C'est ça qu'on attendait.
Moulokera. Koule kambe bora yanfer.
18 novembre 2015. L'assaut de
Saint-Denis.
Un immeuble, toujours à vif. Avec Traoré Lassina Tagara, Stéphane Peu, Marie Huiban, Florian Tozoni, Bibata Ouedraogo et Ramata Kafando. Merci à Mathilde Costil, Régis Dubourg, Fadela Benrabia, Zoubir Souaï, Rémi Brancato et Sachka Cousin. Prise de son, Marc Garvenès et Bruno Mourlan. Mixage, Éric
Boisset.
Archivina, Anne Delaveau. Documentation sonore d'actualité, Caroline Chaussé. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Christine Robert.
France Culture et Yafama.